C'est vrai que l'intelligentsia russe a toujours eu un problème avec le pouvoir. Ça a commencé, bien sûr, avec le régime tsariste, avec des gens comme Tchadaïev, avec les décembristes qui, on peut dire, étaient plutôt des intellectuels, en tout cas des gens très cultivés de leur époque, et certains parmi eux aussi des poètes, et ça continue à ce jour. Bien sûr, nous n'allons pas couvrir la période du début du 19e siècle à nos jours. Encore une fois, ça aurait été un magnifique sujet de tout un cycle. Mais je voudrais revenir quand même, pour commencer, à l'époque soviétique, non pas à la période stalinienne, qui a connu les grandes purges et la mort violente de plusieurs intellectuels, comme vous savez, des grandes figures de la vie intellectuelle, artistique, poétique, etc. Mais plutôt aux années 70, parce que c'est là que réside, si vous voulez, le début de cette position actuelle, au moins d'une partie de l'intelligentsia post-soviétique. Je vous rappelle que vers le milieu des années 60 et beaucoup plus fort encore dans les années 70, se développe le mouvement de dissidents. Maintenant, dissident, ça a été un terme inventé par des journalistes occidentaux. En fait, les dissidents se qualifiaient eux-mêmes plutôt comme pravozachitniki, les défenseurs des droits de l'homme, ou même plus exactement les défenseurs de droits. Et c'est là qu'il faut chercher la genèse à la fois d'une prise de conscience et d'un manque de rôle politique de l'intelligentsia soviétique et maintenant russe. Parce que pour quels objectifs se battaient les dissidents? Je me souviens encore, parce que j'étais encore une très jeune fille, mais je me souviens des premiers tracts de cette mouvance dissidente. C'était d'ailleurs en faveur des Tatars de Crimée. C'était le milieu des années 60. Les dissidents ne demandaient pas le renversement du régime soviétique. En fait, ils étaient dans la logique strictement légaliste. Ils se battaient pour les droits inscrits dans la constitution soviétique et dans la législation soviétique. C'est-à-dire, ils essayaient en quelque sorte de prendre au mot le pouvoir pour demander le respect donc du droit de publier, du droit de se rassembler, essentiellement du droit de voyager librement, du droit de lire les livres qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument aucun, il faut le répéter, aucun programme politique. Parmi eux, il y avait toutes les mouvances qu'on retrouve bien sûr plus tard, parce que, encore une fois, les racines de ce qui se passe aujourd'hui, il faut chercher encore dans les années 60 et 70. Il y avait des démocrates, des gens qui se battaient pour la liberté de la parole, contre les abus psychiatriques, l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Des nationalistes et ces mouvements nationalistes qui grossissaient en sourdine ont provoqué beaucoup plus tard l'éclatement de l'Union soviétique. Il y avait des nationalistes ukrainiens, il y avait des Tatars de la Crimée, il y avait aussi des Juifs qui voulaient avoir droit à l'immigration, mais aussi droit à avoir leur culture, d'enseigner l'hébreu, etc. Des gens qui se battaient pour des libertés religieuses, en particulier, comme vous savez peut-être, le pouvoir soviétique persécutait les catholiques de rite oriental, considérés comme une mouvance hostile. Les baptistes et toute autre secte ou mouvance religieuse qui ne se trouvaient pas complètement sous contrôle du pouvoir, comme se trouvaient aussi bien l'Église orthodoxe que les musulmans et que les juifs. Peut-être le meilleur symbole de tout ce combat qui a été très limité, peut-être le combat politique concernait quelques centaines de personnes, le combat national concernait quelques milliers de personnes, les gens qui ont été persécutés pour des motifs religieux, c'était aussi peut-être quelques milliers de personnes, c'est-à-dire c'était des gens qui se battaient en très très petit nombre contre une énorme machine de propagande qui se sentaient extrêmement isolés. Le symbole de cette lutte, c'est la place rouge, 1968, fin août 1968, quand il y a 7 personnes qui viennent manifester, dont une femme poète, avec le berceau et son bébé, manifester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. Bien sûr, ils ont été tout de suite arrêtés, bien sûr, ils ont été soit envoyés en prison, soit confinés dans des hôpitaux psychiatriques. Les dissidents avaient un toast qu'on levait autour d'une table dans une cuisine soviétique, qui était le seul lieu où on pouvait discuter. Buvons en notre cause désespérée. Eh bien, finalement, la cause n'a pas été complètement désespérée parce que finalement, la perestroïka ne s'est pas produite de façon totalement inattendue. Il faut peut-être que je dise encore deux mots avant de passer au volet perestroïka. Vous savez, il y avait les dissidents, c'est-à-dire les gens qui ont été complètement hors système, qui ont été traqués par le système. Et c'était en grande partie, pas tous, mais en grande partie, une intelligentsia. Peut-être pas des grands intellectuels, sauf quelques figures marquantes, dont la plus importante, c'est l'académicien Sakharov. Mais c'était quand même intelligentsia. Il y avait quelques ouvriers, mais on peut dire que c'était quand même un mouvement de l'intelligentsia. Et cette intelligentsia se sentait complètement, je dirais, hors système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des gens qui ont décidé qu'ils se battaient et qui ne voulaient aucune intégration dans le système, faire une carrière, travailler. Il y avait beaucoup de gens dans ce groupe qui ont sciemment renoncé à toute carrière, même s'ils étaient très doués, etc., qui occupaient des petits postes, par exemple un liftier ou un secrétaire particulier d'un écrivain ou un gardien d'immeuble, etc., pour ne pas collaborer avec le pouvoir soviétique. Donc, c'était les gens hors système. En même temps, il y avait un groupe beaucoup plus large qu'on peut peut-être considérer comme les dissidents à l'intérieur du système. Je souligne ça parce que c'est quelque chose qui va continuer aussi à l'époque post-soviétique. Je dis encore une fois, les racines sont quand même dans le passé des dernières 40-50 années. Qu'est-ce que c'est les dissidents à l'intérieur du système? C'était des gens qui travaillaient, collaboraient, mais qui essayaient chacun à son niveau de faire quelque chose pour contourner la censure, publier quelque chose qui était difficilement publiable, tromper la censure par des allusions qui ne sont pas transparentes dans un spectacle, mais qui néanmoins étaient comprises par le public un peu averti. Et donc, beaucoup de gens, je vous citerai quelqu'un de très connu, qui était le poète Twardowski, qui était pendant plusieurs années le rédacteur en chef de Novy Mir, la revue littéraire extrêmement importante jusqu'à la fin de l'époque soviétique, qui tirait à des tirages totalement inconcevables aujourd'hui, allant jusqu'à 2 millions d'exemplaires, pour une revue littéraire pas mal. c'est Twardowski qui a publié, par exemple, deux nouvelles de Solzhenitsyn bien avant l'archipel du Goulag. Je crois que c'était 1962, une journée d'Ivan Denisovitch et la cour ou le foyer, je ne sais pas comment on l'a traduit en français, de Matryona, Matryonin Dvor. C'était des gens qui se battaient pour publier des écrivains et des philosophes étrangers. Par exemple, déjà dans les années 60, on a commencé à publier des nouvelles de Kafka. C'est-à-dire, ces gens-là se disaient, oui, je fais des compromis avec le pouvoir, mais néanmoins, je peux essayer de faire quelque chose. Et donc, avec ces compromis, on y arrivait, parfois on n'arrivait pas. Parfois, après des publications un peu osées, mais qui semblent totalement inoffensives aujourd'hui, il y avait un fameux recueil du début des années 60, Tarouski Stranitz, les pages de Taroussa, où il y avait le recueil d'Aksionov Métropole, etc. Donc, parfois, les conséquences ont été dramatiques, parfois les personnes ont été chassées de leur poste, voire mises en prison, voire expulsées. Mais néanmoins, donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette mouvance, qui essayaient de faire quelque chose. On trouve, je ne sais pas si vous voulez, vous savez, l'histoire est quelque chose qu'on réécrit sans cesse. Et même pour des événements très récents, vous voyez que 10 ans ou 20 ans plus tard, il est très difficile de reconstruire la vérité. J'ai été, par exemple, confrontée à ça dans mon travail sur Tchernobyl. Parce que en essayant de collecter les témoignages et de construire un récit, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Tchernobyl, retour sur un désastre, j'ai été confrontée au fait que les gens avaient des souvenirs très différents, des appréciations très différentes de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., etc. Et donc, à partir de la perestroïka, il y a eu beaucoup de, même d'hommes politiques, pas seulement des intellectuels, mais aussi très fortement des intellectuels qui se réclamaient d'être des dissidents à l'intérieur du système, même des personnalités tout à fait ancrées dans le régime, comme par exemple Evgeny Primakov, qui raconte qu'il était un dissident au sein du comité central, ou Andrei Gratchev, qui raconte dans ses mémoires que j'ai lues en manuscrit, mais ce n'est pas encore publié, Andrei Gratchev, l'ancien porte-parole de Gorbatchev, qui raconte comment, jeune étudiant, il était étudiant à l'Institut des Relations internationales, c'est une officine, c'était... Et ça l'est encore. Vraiment, c'est c'est quelque chose comme science poésie réservé uniquement aux enfants de la nomenclatura, trié sur le volet, etc., etc. Donc, il est difficile de penser que c'était un foyer de la libre pensée. Or, aujourd'hui, il raconte, par exemple, que ça l'était, qu'ils avaient le journal mural pour lequel ils avaient parfois des problèmes, etc., etc., et qu'eux aussi, ils cultivaient en quelque sorte la pensée libre. Difficile aujourd'hui de reconstituer ça, mais encore une fois, je persiste à penser que la perestroïka qui... dans son volet de glasnost, et c'est là on va donc en venir, n'est pas né dans un désert. Il a dû y avoir quand même un terreau qui dépassait le seul milieu de la dissidence. Il y a eu quand même beaucoup d'écrivains, d'artistes, de politologues, de gens même tout à fait ancrés dans le pouvoir, rédacteurs en chef, journalistes, etc., etc., qui aspiraient à une certaine liberté et qui, chacun dans la mesure de son audace personnelle, essayait de faire quelque chose. Je mentionnerai encore peut-être une circonstance qui me semble importante, c'est que à l'époque soviétique, comme vous savez, on était dans la guerre froide, pratiquement toute l'époque après la guerre, sauf jusqu'à la perestroïka. Et donc, il y a eu une solidarité très importante entre les dissidents, y compris les figures intellectuelles très importantes qui ont été forcées à l'émigration. Je vous en citerai quelques-uns, comme l'écrivain Sinyavsky, comme l'écrivain Maximov, comme le metteur en scène Lyubimov, comme le barde Alexandre Galitch, etc., qui, bien sûr, Solzhenitsyn, n'oublions pas surtout Solzhenitsyn, qui se sont retrouvés en Occident et qui ont essayé de garder le lien avec la métropole et qui ont été soutenus par l'intelligentsia dans les pays occidentaux qui étaient très solidaires à l'époque, dans les années 70 et 80, enfin une grande partie de l'intelligentsia, notamment en France, ou des grandes figures comme, je ne sais pas, Yves Montand ou André Glucksmann, ou Elie Wiesel, ou Marek Alter, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu ce combat contre le totalitarisme soviétique. Maintenant arrive la perestroïka. Vous savez bien que le volet économique de la perestroïka, qui veut dire reconstruction, n'a absolument pas marché. Mais par contre, le volet glasnost, c'est-à-dire ouverture des archives, ouverture vers le monde extérieur, liberté, ça c'était quelque chose qui a totalement secoué la société soviétique. Aujourd'hui, avec du recul, ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, semble la période probablement... surtout la deuxième moitié de la perestroïka, disons de 89 à la fin de 91, comme les années les plus libres de l'histoire russe du XXe siècle, où il n'y avait plus de censure, où les archives se sont ouvertes, où on a eu des discussions à n'en finir dans tous les médias, où tout le pays a été à la fois politisé et secoué par la vérité sur le passé totalitaire soviétique, et bien sûr une très grande partie, la majorité je dirais de l'intelligentsia était pour glasnost, pour l'ouverture, pour la démocratisation, etc. Comme vous savez, ces dernières années de la perestroïka étaient aussi les années de l'effondrement, on peut dire, économique, quand, à la fin de 91, le pays a été secoué non seulement par des vagues centrifuges de libération nationale, qui a produit l'éclatement de l'Union soviétique, mais aussi par le pays a été gangréné par une situation économique désastreuse, et cette situation a empiré encore dans les premières années post-soviétiques. Pour l'intelligentsia, ça a été une grande déception. Grande déception parce que cette intelligentsia qui a combattu, qui s'est mobilisée, qui a salué l'avènement de la liberté, s'est retrouvé dans la misère. Il n'y avait plus d'argent pour l'édition, les revues littéraires n'étaient plus soutenues, les financements du cinéma ou du théâtre se sont arrêtés, ou presque. Bref, c'est au sein de cette déception de l'intelligentsia qu'il faut aussi chercher les racines de telle adhésion qui est survenue plus tardivement au régime de Poutine. Il y a quelques-uns qui ont trouvé leur voie dans cette situation assez misérable. Par exemple, bon, je raconte simplement cette anecdote. Il y a quelques années, il y a peut-être maintenant déjà plusieurs années, j'ai parlé avec l'écrivain que vous connaissez sûrement de nom, Boris Akounine. Boris Akounine, qui maintenant est très populaire dans le monde entier, y compris en France, et qui m'a expliqué sa méthode de survie, parce que Boris Akounine, dont ce n'est pas le vrai nom, en fait c'est quelqu'un d'origine géorgienne, bien que russophone et élevé dans la culture russe, il a été un japonisant et critique littéraire. Et bien sûr, en tant que japonisant et critique littéraire, il gagnait des clopinettes, et donc il a décidé de créer un projet qui lui permettrait de vivre dans la dignité, comme disent les Russes. C'est-à-dire, il a inventé trois types de polars qui il m'a expliqué en détail, qui étaient destinés pour trois groupes de populations, comme on dit, les sociologues connaissent ce terme, target groups, différents, mais avec l'idée que quelqu'un qui s'accroche à un type de ces polars va aussi s'intéresser après aux autres. Et donc, il a commencé, comme c'est quelqu'un de très cultivé, en fait, si vous décidez de vous lancer dans l'écriture de polar assez cultivé, léger, etc., etc., et que vous êtes quelqu'un de grande culture, l'exercice est bien sûr doué. L'exercice n'est pas très compliqué. Il sait qu'il le fait pour l'argent, mais en même temps, il s'amuse. Et il est devenu, en quelques années, un écrivain mondialement populaire et très riche. Et donc, il peut se permettre aussi, en quelque sorte, d'être totalement dans l'opposition, parce que sa position personnelle et son bien-être matériel ne dépend absolument pas de M. Poutine. Mais il n'y a pas beaucoup d'Akounine, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi cet exercice. Et il faut dire aussi qu'il y a des sphères où c'est plus facile et des sphères où c'est plus difficile. Par exemple, pour un réalisateur ou un metteur en scène qui travaille en équipe, qui ont besoin de gros financements, etc., etc., quoi qu'il invente, il est très difficile d'émigrer, de commencer une nouvelle carrière, faire des films et surtout des mises en scène en Occident. Et donc, il faut composer. Parallèlement, parallèlement, ce qui s'est produit, c'est que le processus a commencé encore sous Yeltsin et il a continué ensuite de façon beaucoup plus élaborée sous Poutine. C'est que l'État qui a essayé à partir des années 90, il faut dire que les fondements du régime actuel remontent quand même à Yeltsin. Poutine n'a pas commencé à partir de zéro. C'est sous Yeltsin qu'on a commencé à chercher l'idée russe. C'est sous Yeltsin qu'on a commencé à unir les russophones du monde entier. Moi, j'ai assisté au premier congrès des soi-disant compatriotes, c'est-à-dire compatriotes pas du tout au sens français normal du mot. Les compatriotes, selon cette définition, sont tous ceux qui sont de près ou de loin de culture russe et qui se sentent près de la Russie. Voilà, des patriotes dans l'âme. Ça a commencé sous Yeltsin. Et donc, moi, j'ai vu avec des exemples très concrets comment, encore sous Yeltsin et beaucoup plus sous Poutine, on a commencé aussi à acheter l'intelligentsia, à acheter les créateurs. J'ai vu que les gens qui ont été misérables dans la première moitié des années 90, qui vivaient très pauvrement, des revues qui vivaient très chichement, ont reçu des subsides, alors que maintenant leur influence est très petite. La revue Novy Mir ou la revue Znamya, qui tirait 1 million d'exemplaires, 2 millions d'exemplaires, maintenant tire à peine à quelques milliers, dont l'État encore achète 3 500 pour distribuer à des bibliothèques. Mais ces gens, les gens qui travaillent dans ces revues, peu à peu, le système soviétique a pris le dessus, c'est-à-dire ils ont de nouveau reçu des dachas. Ceux qui les ont perdus les ont reçus, ceux qui les ont eus avant les ont gardés. Ils ont pu de nouveau aller dans des ce qu'on appelle Dama Творчества, les maisons de création. C'est un peu comme, vous savez, des villas ici, mais seulement ici c'est privé, alors que en Russie ça appartient toujours à l'État ou à des unions des écrivains, d'artistes, etc., qui sont toujours subventionnés par l'État. Et donc l'intelligentsia s'est un peu ranimée parce que elle a compris que de nouveau elle pouvait vivre de son art. C'est aussi sous Yeltsin qu'on commence à observer quelque chose que j'espérais que ça ne se produirait jamais, mais néanmoins ça s'est produit. C'est la restauration du soviétisme, je dirais. Soviétisme, c'est-à-dire mode de vie soviétique, art soviétique, littérature soviétique, etc. Sous divers prétextes. On a commencé à partir du milieu des années 90, mais ensuite de plus en plus assidûment, à publier de nouveau des écrivains soviétiques. Moi, je pensais qu'ils seraient simplement les grands écrivains du réalisme socialiste, qu'ils n'auraient plus cours. Mais non, on revient, en tout cas à ce qu'on peut un tout petit peu sauver, à les sauver. On montre sans arrêt à la télévision des films soviétiques. Dans la peinture, on essaie de réintroduire l'art qui semblait être aussi définitivement compromis, à savoir le réalisme socialiste. On commence à chercher là aussi des sens cachés, ou plutôt admirer des qualités formelles, parce que, bien sûr, comme en Allemagne nazie, vous savez, parmi les artistes ou les sculpteurs nazis, il y avait des vrais maîtres. D'une part, on peut comprendre ça. Vous savez, c'est très difficile pour les gens qui ont vécu trois générations sous le pouvoir soviétique, qui ont fait la guerre, qui se sont battus, qui avaient des cartes du parti, qui ont défendu ce pays, etc., etc., de se retrouver un jour dans la situation où on dit « tout ce que vous avez fait, ça ne vaut rien, c'était un régime horrible, c'était un régime totalitaire, ça ne vaut plus rien, voilà, oups, grosse croix ». Ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que cette restauration du soviétisme a aussi contaminé la jeunesse, c'est-à-dire la Russie qui est aujourd'hui un régime qu'on peut qualifier un système de plus ou moins capitalisme d'État, parce que toute la grosse industrie se trouve d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, sous contrôle d'État, et où par contre les PME ont une existence extrêmement dure et en fait ne sont absolument pas encouragées. C'est un État qui, où les soins médicaux, malgré l'enrichissement par le pétrole au cours de 15 dernières années, où les soins médicaux sont toujours très déficients, où les retraités, surtout dans les provinces, vivent très chichement. C'est un pays du Gazprom où 40% de la population n'a pas accès au gaz, etc., etc. Et donc, pour une partie de la jeunesse russe, on a l'impression qu'il y a une sorte de mythe soviétique qui est revenu à la vie. Parce que en Union soviétique, finalement, on fait en quelque sorte abstraction des purges, des fusillades, etc., des exécutions de masse, et on se remémore les choses positives. Il y a une sorte de perception mythique. Je l'ai très bien vu, quand j'ai fait un voyage organisé à Tchernobyl. C'était assez extraordinaire. En 2009, j'ai refait un voyage à Tchernobyl, donc, Boris l'a mentionné, je me suis beaucoup occupée. Et il y avait une excursion par car dans la ville de Pripyat, qui est la grande ville de la zone qui se trouve, comme vous savez, en Ukraine, pas en Russie, pour visiter cette ville qui, comme Pompéi soviétique, a été abandonnée 48 heures après l'explosion parce qu'elle est contaminée au plutonium, elle est inhabitable. Mais la ville tient encore debout. Vous n'avez pas de population, mais vous avez encore de larges avenues. C'est une ville nouvelle, construite au début des années 70, même à la fin des années 70, où il y avait une grande piscine, des salles de sport, une discothèque, des restaurants, une plage au bord de la rivière Pripyat, etc., etc. Et donc, les jeunes qui étaient dans le car, nous étions une trentaine, c'était essentiellement des gens âgés de 25 à 30 ans, avec qui j'ai pu parler. Et aussi, à la fin, notre guide, donc on a visité cette ville, et j'ai entendu un peu pendant la visite comment les gens, ces jeunes, se disaient l'un à l'autre, mais tiens, c'était vachement bien. Et à la fin, il a demandé, le guide, la motivation. Alors, il s'est avéré que sur les 30 personnes, la plupart, peut-être 25, étaient des Russes venus de Russie, non pas des Ukrainiens, et qui avaient envie de voir le Pompéi soviétique. Ils voulaient voir une vraie ville soviétique qui n'a pas été touchée, qui a été conservée telle qu'elle, presque à la fin de l'époque soviétique. Et donc, si vous voulez, on va passer peut-être à Poutine et l'actualité. Il y a eu deux idées concomitantes pour arriver à cette idéologie poutinienne que nous observons aujourd'hui. C'est d'une part la restauration de tout ce qu'on pouvait trouver positif dans la période soviétique, et d'autre part l'idée d'une image beaucoup plus positive de la Russie tsariste, non pas comme prison des peuples, comme on disait à l'époque soviétique, mais au contraire comme un grand empire qui élargissait sans arrêt ses territoires, qui gagnait des guerres, qui permettait donc à la plupart des gens de vivre bien. Et donc, de façon très contradictoire, je ne sais pas trop comment ça se conjugue dans les mêmes têtes. D'une part, la révolution, c'était très mauvais, mais d'autre part, parce qu'elle a mis fin à l'empire tsariste, qui était quelque chose de positif, mais en même temps, la période soviétique, c'était plutôt bien. On a aujourd'hui des propagandistes. Quand vous regardez la télévision soviétique, il y a un écrivain d'ailleurs de talent, mais qui est absolument idéologiquement une pure abomination, qui s'appelle Prokhanov, qui parle de la grandeur mystique de la Russie, du rayonnement pour le monde entier, etc., etc., et qui justifie bien sûr n'importe quel acte de Poutine. Mais il y a un autre, un certain Sergei Kourguignan, un sociologue aussi très influent, qui par contre prône le retour du soviétisme. Et en quelque sorte, dans les têtes, ça se complète pour trouver une idée dominante de la grande Russie, qui a toujours été grande. Et donc dans cette interprétation, la période soviétique n'apparaît plus comme une parenthèse, mais comme plutôt un avatar de l'histoire russe millénaire et d'un moyen de préserver l'Empire, qui autrement aurait éclaté et disparu comme tous les autres empires au XXe siècle. Je passerai maintenant à Poutine. C'est un colonel du KGB, ancien chef du FSB, mais toujours au rang de colonel, que personne ne connaît, et personne ne soupçonne que c'est une personnalité qui va dominer le monde et occuper les esprits de l'humanité entière pendant tant d'années. Poutine gagne sa popularité, comme vous savez, avec la guerre de Tchétchénie, la première guerre de Tchétchénie, qui ne le rend pas quand même complètement populaire. Il y a eu des explosions à Moscou dont beaucoup de gens pensent, et il y a des preuves indirectes que peut-être les explosions ont été organisées par le FSB justement pour monter le peuple contre les Tchétchènes mobilisés pour cette guerre. C'est la deuxième guerre. La première a été menée par Boris Yeltsin. Elle n'a pas été populaire du tout. Comme vous savez, elle s'est soldée par une sorte de règlement temporaire, par une sorte d'armistice qui laissait la question de l'indépendance de la Tchétchénie ouverte. Et donc, vient Poutine, fait la guerre, et c'est à ce moment-là, c'est là où on va revenir au rôle de l'intelligentsia, que les idéologues du Kremlin, l'entourage, les conseillers du Kremlin comprennent que la guerre de propagande n'est pas moins importante que la guerre sur le terrain. Et c'est là que commencent très, très tôt les limitations de la de l'accès de journalistes à la Tchétchénie et qu'on commence à leur fermer la gueule, excusez-moi l'expression. Récemment, j'ai parlé à un ami philosophe, justement, on a discuté d'Anna Politkovska. Il m'a dit quelque chose à quoi je n'ai pas pensé. Il m'a dit, est-ce que vous avez réfléchi pourquoi on a laissé une seule Politkovskaya parler de la Tchétchénie et tous les autres n'ont pas eu accès là-bas? Pourquoi on l'a laissé entrer en Tchétchénie? Pourquoi on l'a laissé travailler en Tchétchénie? S'ils ont interdit à tout le monde, pourquoi pas à elle? Et moi, je n'avais pas de réponse, j'avoue. Je pensais que bon, c'était peut-être que il voulait encore qu'il y ait une ou deux voix, le pouvoir voulait encore qu'il y ait encore une ou deux voix pour qu'on ne les accuse pas de la censure totale. Et il m'a proposé une hypothèse qui me semble assez plausible. Et il m'a dit, mais vous comprenez bien, s'il y a une seule personne qui dit le contraire de tous les journalistes officiels et de tous les médias officiels, ça n'a aucune valeur, parce qu'on ne peut pas le corroborer, on ne peut pas y aller, on ne peut pas vérifier ce qu'elle raconte, et donc c'est une Cassandre, c'est un prophète qui crie dans le désert. Et je pense que c'est peut-être pas faux, que c'était peut-être une sorte de calcul du pouvoir, et c'est pour ça qu'elle a été aussi tolérée relativement longtemps. Elle a été tuée en octobre 2006, peut-être pas sur ordre de Poutine d'ailleurs, peut-être c'était parce qu'elle énervait Kadyrov. Les traces mènent quand même en Tchétchénie. Et donc, on assiste à quelque chose d'extrêmement pervers. On assiste à des manœuvres du pouvoir qui manient le bâton et la carotte, qui manient des outils de propagande extrêmement sophistiqués, avec une certaine complicité, on peut dire, de l'intelligentsia, parce que, encore une fois, on a un nombre assez important d'intellectuels qui ne se sont pas laissés acheter par le pouvoir. C'est souvent des figures très populaires qui, je l'ai dit, je le redis, ont des sources de financement indépendantes du pouvoir. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, comme l'écrivain Dimitri Bykov, qui est un écrivain extrêmement prolifique, talentueux et important, eh bien, il gagne suffisamment avec ses honoraires pour, encore une fois, ne pas avoir besoin de Poutine. C'est le cas de Ludmila Ulitskaya, qui est un écrivain de renom. Ses livres sont populaires en Russie, mais aussi il est traduit dans le monde entier, etc. Donc, vous avez un certain nombre, plutôt parmi les écrivains. Il y a peu de metteurs en scène. Il y a par exemple Vladimir Mirzoyev, mais je crois qu'il est peut-être le seul. Il y a pratiquement pas de réalisateurs, parce qu'ils dépendent complètement du financement. C'est-à-dire que il faut dire encore une chose au sujet de cette intelligentsia, c'est que nous ne vivons plus à l'époque soviétique, quand les gens étaient capables de travailler comme liftier, mais ne pas composer avec le pouvoir. Parce qu'à l'époque soviétique, de toute façon, il y avait la pénurie, de toute façon, on ne pouvait pas aller à l'étranger, de toute façon, on pouvait avoir un mode de vie un peu plus aisé ou un peu moins aisé, mais la pauvreté n'était pas une tare. Alors qu'aujourd'hui, dans une société de consommation, c'est pratiquement une tare. Quelqu'un qui vit pauvrement, c'est un raté. La vision dans la société post-soviétique, c'est ça. Et donc le soutien au moment où Poutine a pratiquement fermé toutes les sources de financement étrangers, qui étaient aussi beaucoup de gens des portes de sortie, par exemple, il y avait des bourses pour les écrivains, des bourses pour les philosophes, des bourses pour des sociologues, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette intelligentsia, elle a pratiquement peu de choix. Un choix, c'est émigrer. Il y a certains qui font ce choix, ou en tout cas vivent une grande partie du temps à l'étranger, s'ils ont les moyens. Ils peuvent se taire, devenir apolitiques, ou ils peuvent composer avec le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine est tout à fait révélateur de cet état de la société, on peut déjà même dire, poutinienne. D'une part, le travail de propagande de plusieurs années a pu produire un effet cumulateur de cette fierté nationale qui n'est pas perçue comme fierté de valeurs démocratiques ou de valeurs des droits de l'homme ou simplement de liberté tout court. Ce qui est mis en exergue, ce qui est mis en avant de façon systématique, c'est le sentiment de la fierté pour le passé et le présent de la Russie, pour la grandeur de la Russie, au nom de laquelle on peut sacrifier aussi bien peut-être son bien-être, peut-être renoncer au voyage à l'étranger, maintenant qu'il y a des sanctions, etc. C'est-à-dire que le régime de Poutine a réussi à mettre en avant les valeurs à la fois très soviétiques et les valeurs séculaires ou multiséculaires plus exactement de l'Empire russe. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle il est même difficile de se prononcer, parce que maintenant, les intellectuels qui signent des lettres, par exemple contre le rattachement de la Crimée, ou qui se prononcent ouvertement contre Poutine, etc., commencent à être perçus comme ennemis du peuple. Le seul député de la Douma, M. Ponomarev, Lev Ponomarev, qui a voté contre le rattachement de la Crimée, ça s'appelle le rattachement, a été, les voix se sont élevées pour l'exclure de la Douma, et la propagande à la télévision était... On peut éventuellement même être contre Poutine, mais on ne peut pas être contre son pays, parce que l'acte du rattachement, de la réunification avec la Crimée, est quelque chose contre lequel on ne peut pas être, parce que c'est un acte patriotique. Et donc, je pense qu'il arrive une période extrêmement compliquée pour... l'intelligentsia, essentiellement l'intelligentsia créatrice, parce qu'il y a de moins en moins de liberté dans les médias, donc les journalistes sont plus ou moins obligés soit de composer, soit ne peuvent plus exercer leur métier, ou ils doivent se convertir en journalistes dans des magazines de luxe ou des publications du genre... l'équivalent de Pariscope qui s'appelle Affiche à Moscou, etc. Et On voit que pratiquement ce durcissement provoque une situation où une grande partie de l'intelligentsia, volontairement, parce que happée par cet élan patriotique, ou involontairement, parce qu'elle n'a pas de solution, est obligée de servir le régime. Je crois que malheureusement, comme le potentiel de protestation n'est pas important, vous savez, on peut comparer ça très facilement. On a eu la vague de protestation contre Poutine avant et surtout après les élections législatives de 2011, pour le trucage des élections, ensuite contre l'élection de Poutine dans les premiers mois de 2012, ensuite contre son élection encore la veille de son inauguration, ça s'est très mal terminé, comme vous savez peut-être, et ensuite pour l'élection de l'opposant Navalny à la mairie de Moscou, et maintenant contre l'occupation de la Crimée. À Moscou, à chaque fois, ces manifestations ont pu rassembler entre 10 et 100 000 hommes. C'est-à-dire les plus grandes manifestations, c'était la période des élections. Je pense que le chiffre 100 000 a été atteint une fois. Et quand il y a entre 50 et 70, 80 000, c'est déjà très bien. Mais cela veut dire que c'est à peu près, et il y a encore quelques milliers dans d'autres villes de la Russie. C'est-à-dire que le potentiel global de cette contestation, c'est peut-être un peu plus de 100 000 personnes. Si on considère qu'il y a encore des gens qui ne sortent pas, il y a peut-être quelques centaines de milliers, mais plus de 100 000 ne se mobilisent pas. Pour comparer l'Ukraine, où c'était une vraie révolution populaire, les Maïdan ont eu lieu dans 50 villes de l'Ukraine, y compris d'ailleurs à l'est et au sud. Et au total, il y a eu 2 millions de personnes qui ont été mobilisées dans les Maïdan, sans compter ceux qui les ont apportés de la nourriture, des bûches pour chauffer les poêles. Et ces gens sont restés, non pas 2 millions, mais enfin le noyau est resté quand même 4 mois, et ils y sont encore. Ce qui veut dire que nous ne sommes absolument pas en Russie dans le contexte d'une révolte quelconque contre ce régime. Et on voit que les gens qui ont été contre Poutine, qui ont parlé dans les meetings, ceux qui ont fait, par exemple, ont soutenu Mikhail Khodorkovsky, ceux qui ont soutenu Navalny, ceux qui ont protesté contre l'occupation de la Crimée, c'est toujours les mêmes personnes. Il y a une liste sur le site russe du Pen Club de cette pétition des intellectuels qui sont contre l'invasion de la Crimée. Il y a eu un congrès de l'intelligentsia à Moscou pour protester contre cette invasion, le retour à la guerre froide, le danger, la rupture pratiquement des relations entre les Russes et les Ukrainiens, qui sont quand même deux peuples frères. Il s'agit de quelques dizaines, peut-être quelques centaines de personnes. Ce qui veut dire qu'en termes de résistance, on n'a pas encore des sanctions comme à l'époque soviétique. On n'interne pas, sauf une ou deux exceptions, dans les hôpitaux psychiatriques. On n'envoie pas en prison, sauf aussi quelques exceptions par-ci, par-là. On n'est pas du tout, dans le même type de répression. Aujourd'hui, encore une fois, la répression, elle se trouve entre l'impossibilité de travailler, voire plus ou moins qui peut provoquer donc la nécessité de quitter le pays. On n'est pas encore au stade de la répression active, mais vous avez la mémoire génétique. Les gens qui ont eu une fois peur, ils continuent à avoir peur même quand la peur est fantomatique. Hier, j'ai vu le président des communautés juives de l'Ukraine qui est venu au Congrès juif mondial. Et il y a eu trois collègues de lui, de Moscou, qui sont des dirigeants de communautés juives de la Russie. Ils ont tous les trois été convoqués au Kremlin avant c'est même pas le Congrès, c'est le comité exécutif, la réunion du comité exécutif du Congrès juif mondial. Ils ont tous les trois été convoqués au Kremlin et on leur a demandé de se tenir à carreau et de voter la résolution qui est assez molle, qui n'est pas dramatique, mais qui néanmoins confirme de façon indirecte la propagande russe comme quoi il y a un énorme danger d'antisémitisme émanant du nouveau pouvoir, des extrémistes, etc., etc. Et on leur a dit, sinon vous pouvez rester à Paris. C'est-à-dire, encore une fois, les gens ont voté pour la résolution, parce que encore une fois, là aussi, c'est comme pour les intellectuels, on ne va pas vous mettre en prison si vous votez contre. Mais on vous privera du financement d'État. On trouvera le moyen de vous chasser de vos locaux et vous ne pourrez peut-être pas trouver d'autres. On conseillera à tel ou tel oligarque de ne plus vous aider aussi, parce qu'il y a aussi bien sûr des dons privés, mais même ces dons privés aujourd'hui sont contrôlés par le pouvoir. Et donc, si on dit à un tel oligarque juif, non, cette organisation, vous ne la subventionnez pas, soyez sûr qu'il ne va pas la subventionner. Donc, on revient par les nombres, pratiquement, à la période soviétique, c'est-à-dire les intellectuels qui, ouvertement, sont contre, se comptent peut-être par dizaines ou au mieux par centaines. Pas par milliers et par dizaines de milliers, comme pendant la perestroïka et la première moitié, même deuxième moitié des années 90. Tous les autres, par des méthodes plus subtiles et à l'aide d'une propagande plus subtile, sont de nouveau tenus à carreau. Je pense néanmoins... Vous savez, hier, j'ai eu une discussion, je vais finir là-dessus, j'ai eu une discussion très intéressante hier avec justement ce monsieur Zissels, qui est le président des communautés juives, du conseil des communautés juives de l'Ukraine, et qui me disait, mais vous comprenez, chaque peuple a son identité civilisationnelle, et l'identité civilisationnelle du peuple russe, forgé au cours de plusieurs centaines d'années, est une identité impérialiste. Et donc, ça peut varier un tout petit peu, mais le fond est toujours là. Donc, ce peuple est incapable de la démocratie. Moi, je suis beaucoup plus optimiste. Ça m'intéresse, bien sûr, d'avoir aussi votre avis, parce qu'on a discuté pendant une heure, mais chacun est resté avec ses convictions. Moi, je pense que je ne crois pas trop au déterminisme dans l'histoire, qui est après tout une conception très marxiste. Je crois que, d'une part, il y a un rôle très important des leaders. Pour citer un exemple qui vous sera sûrement à tous connu, proche et compréhensible, je pense à quelqu'un comme Churchill. Peut-être s'il n'y avait pas quelqu'un comme Churchill en Grande-Bretagne au début de la Seconde Guerre mondiale, peut-être que la Grande-Bretagne, qui finalement est un État insulaire, ne serait même pas entrée en guerre. d'autant plus qu'il y avait un fort parti fasciste en Grande-Bretagne. Ou peut-être, s'il y avait un leader plus faible, elle aurait été vaincue. Et Dieu sait quelle aurait été l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Churchill, en effet, a été un homme totalement providentiel. La Russie a eu, à mon sens, une mauvaise providence, parce qu'il y a aussi des mauvais génies, d'avoir M. Poutine. Je crois que le travail qui a été fait à partir des années 60 et pendant toute la période quand même de la perestroïka et post-soviétique, tant que c'était encore possible, n'a pas été un travail vain. Quand je dis le travail souterrain, c'est le travail tout simplement de la liberté, de l'accès au savoir, de l'accès à l'histoire, aux valeurs européennes, etc. Pendant la période de la perestroïka et dans la période qui est post-soviétique, il y a eu quand même peut-être 15 ans quand les associations, toutes sortes d'ONG, une grande quantité de presse libre, peu à peu étouffée, la publication de livres, etc., etc. Il me semble que même si on arrive maintenant à une période de glaciation et à une période où on a ranimé avec un effort de propagande le sentiment ultranationaliste, impérialiste, patriotique, etc., quand les circonstances vont changer, cette culture profonde, qui maintenant est un peu enfouie, cachée, sauf les plus braves ou les plus indépendants, va ressortir et peut-être aussi la Russie connaîtra son Havel ou son Sakharov au pouvoir. Il faut espérer.
On va, Galine, on vous remercie très très.